On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
Le témoin de ce vendredi, Jean-Pierre Duport, préfet, le préfet républicain ou impérial ?
Monsieur le préfet, une délégation d'ouvriers demande d'être reçue par vous.
Je refuse de les recevoir. Faites donner la troupe.
Il faut décréter l'état de siège. Que l'on arrête tous les meneurs.
La loi, ouvrez !
Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence qui rappelle quel peut être l'impérium des préfets en matière de maintien de l'ordre. Nommé en 1993 en Seine-Saint-Denis, notre invité Jean-Pierre Duport a eu plus d'une fois à affronter des situations difficiles. Il quitta pourtant son immense bureau babylonien de Bobigny en versant des larmes. Ne dit-on pas de ce département que, s'y élabore le meilleur miel de France, nulle part ailleurs, les abeilles n'ont à butiner des fleurs aussi diverses. De 1998 à 2002, autre décor, la préfecture de la région Île-de-France, avec son pavillon tricolore, sa table. Un préfet, disait Poincaré, c'est un drapeau et une cuisinière. Sauf qu'aujourd'hui, surtout dans une métropole de dimension mondiale, le préfet est devenu le garant du futur par la modélisation de l'espace. Quelle politique du logement soutenir ? À un certain moment, on a nommé Jean-Pierre Duport Robespierre des HLM. Quels équipements structurants privilégier ? Il a accompagné la construction du Stade de France, dont il dit qu'au moins il a la gueule d'un stade. Mais dans une agglomération mondiale, rien ne se tient jamais d'équerre. C'est un archipel d'îles de croissance et d'îles de pauvreté qui s'ignorent. Mainteneur de l'ordre et garant du futur, le préfet du 21e siècle devra être social ou ne sera pas. Ça fait beaucoup de casquettes pour un seul uniforme.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Pierre Duport, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
J'ai vu une photo de vous, sabot au pied et coiffé d'un béret. Vous étiez enfant.
C'est tout à fait exact. C'était à l'occasion des Fées Libres, qui sont la fête traditionnelle dans les pays de Languedoc. Et le béret et les sabots, il y a un jour quelqu'un qui me les a rappelés parce que j'allais l'interviewer dans le cadre d'un travail que je faisais à l'époque à l'ENA. Et il m'a dit, ça fait pas longtemps que vous avez abandonné votre béret. Donc, ça doit faire vraiment partie de ma culture.
Alors, l'ENA, vous l'avez faite, bien sûr, et vous êtes sorti dans la promotion Boris Vian.
Oui, dans la promotion Boris Vian, si ce n'est qu'elle a fini par s'appeler Marcel Proust, parce qu'il y avait un ministre de la fonction publique de l'époque qui était Louis Jox, le père de Pierre Jox, et qui a trouvé que c'était dangereusement révolutionnaire de choisir le nom de Boris Vian. Alors, nous avons cédé, c'est avant mai 68, je pense que si ça avait été après mai 68, on aurait sorti le drapeau de la Révolution. Mais on a fait, je crois, un petit pied de nez à notre ministre, parce qu'on a choisi avec Marcel Proust quelqu'un dont le lien avec la fonction publique sont plus que ténues.
Il paraît que l'oral du concours, quelqu'un vous a demandé, vous seriez préfet, inviteriez-vous à votre table des syndicalistes? On a entendu en exergue de l'émission un extrait du Pain Noir, selon Georges-Emmanuel Clancier, le préfet de cette époque-là, au temps de Clémenceau, n'imaginait pas d'inviter des syndicalistes à sa table.
Oui, mais j'ai répondu aux membres du jury que le général de Gaulle venait de recevoir Ludwig Erhard à l'Élysée et qu'il avait invité des syndicalistes à sa table. Or, ce que faisait le général de Gaulle, je vois pas pourquoi, personnellement, modeste préfet, je ferais pas la même chose.
C'est Poincaré, non pas Clémenceau, qui disait « un préfet, c'est un drapeau et une cuisinière ».
J'adhère complètement. Alors j'ai, moi, attribué cette phrase à Paul Delouvrier, qui était pour moi un de mes grands prédécesseurs. Je pense que c'est important parce que, à la fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'impérium, c'est la représentation de l'État, avec tout ce que ceci implique de responsabilité. C'est aussi une maison d'accueil. Et je crois que il faut pouvoir accueillir l'ensemble des personnes qui ont à travailler avec le préfet. Et donc, je crois qu'il est important d'avoir un bon cuisinier ou un bon cuisinière cuisinière. Moi, j'ai eu plutôt des cuisiniers dans ma carrière, parce que je crois que d'avoir une bonne table, ça permet de rendre les gens plus coopératifs.
Retour au bureau du préfet, il est babylonien, donc à Bobigny, vous l'aviez orné comment ?
Il était grand et je l'avais orné d'une toile d'Édouard Pignon, Édouard Pignon dont on connaît les liens avec le Parti communiste.
Donc mais vous c'est ne preniez pas de risque.
Exactement. Mais c'est pas pour cette raison, c'est parce que j'aime beaucoup la peinture d'Édouard Pignon et dans des fonctions précédentes, j'avais également un autre tableau d'Édouard Pignon, un nu, mais je pense un nu suffisamment pudique pour ne pas choquer mes visiteurs.
Ici, c'est une réunion dans une émission de télévision dans les Alpes-Maritimes, dans le bureau du préfet de Nice. Vous allez voir qu'une des directrices, une des proches du préfet est une demoiselle. J'espère qu'il n'y avait pas un décor pareil quand se tenait cette réunion.
Bien, messieurs les directeurs et directrices, nous allons ouvrir notre réunion d'aujourd'hui. Si vous voulez bien, nous allons aborder immédiatement l'énoncé de l'ordre du jour aujourd'hui pour que chacun puisse s'y préparer. Monsieur Robert, directeur adjoint du service des impôts.
Je vous parlerai, monsieur le préfet, des problèmes de travail clandestin.
Merci. Mademoiselle la directrice de l'administration générale à la préfecture.
Essentiellement trois problèmes, monsieur le préfet. Le premier est une délibération.
Plusieurs fois par mois, le préfet préside une conférence interservice. À cette occasion, il coordonne les travaux des responsables départementaux des différents ministères et des différents services publics.
Très bien. Monsieur le directeur départemental de l'agriculture, à votre tour.
Monsieur le préfet, je voudrais évoquer le problème posé par le transport de sel par hélicoptère sur les alpages d'accès difficile au cours de l'été 76 et par l'aménagement d'abris de bergers en zone de montagne.
Monsieur le sous-préfet de Grasse a la parole.
Monsieur le préfet, je voudrais simplement évoquer deux demandes d'octroi de force publique. L'un qui est déposé par les dirigeants d'une entreprise qui désire faire évacuer l'usine occupée par des ouvriers. L'autre déposé par l'Électricité de France qui désirerait poursuivre un chantier de ligne de haute tension qui fait l'objet de nombreuses oppositions.
Vous vous plaignez souvent, Jean-Pierre Duport, que dans les cabinets ministériels, les 10 cabinets font écran à l'administration. Un préfet est beaucoup plus proche de ses directeurs.
Un préfet ne peut pas travailler sans être proche de ses directeurs. Mais je dirais qu'un ministre, c'est la même chose.
Et ça devrait.
Et je regrette. Et lorsque j'étais directeur de cabinet d'un ministre, en l'occurrence de Jean-Pierre Chevènement, j'ai insisté auprès de lui pour qu'il voie régulièrement ses directeurs. Les directeurs, c'est eux qui sont les patrons de l'administration administrante. Il n'est pas pensable de ne pas travailler directement avec eux. C'est à mon avis une exigence de bonne qualité du travail. Je regrette que ça se perde souvent dans de nombreux ministères.
Vous avez remarqué que dans ce reportage de Guy Demois, 1976, sur la première chaîne de la télévision publique, il était question de l'octroi des forces publiques. C'est un sous-préfet qui demandait au préfet l'octroi des forces publiques. Première opération de maintien de l'ordre que j'aimerais que vous évoquiez, l'occupation de la cathédrale de Saint-Denis par les sans-papiers.
Mais écoutez, c'est un sujet difficile et délicat parce que bien évidemment, l'intervention dans une église, tout particulièrement dans la basilique de Saint-Denis, a un impact médiatique très fort, surtout qu'on se situait à l'époque après l'opération de Saint-Bernard. Bon, fort heureusement, j'avais des relations avec l'évêque et avec le curé de la basilique qui nous ont permis de traiter dans des conditions calmes ce sujet délicat.
Mais comment ça l'évêque de Saint-Denis de l'époque, Monseigneur de Roubaix, c'est une des rares personnalités du département qui refusait de partager votre table à la préfecture.
Oui, mais il n'a pas refusé de la partager, c'est un député communiste de Saint-Denis, où nous avons dîné ensemble. Il craignait probablement des compromissions en allant à la table du préfet, mais il savait qu'il fallait régler le problème, qu'on ne pouvait pas laisser occuper la basilique sans impact fort.
Mais vous allez au-devant des problèmes quand il y a une opération de maintien de l'ordre. Vous êtes là avec la conduite opérationnelle des choses. Vous êtes allé au-devant à la basilique de Saint-Denis?
Non, parce que je pense que la place d'un préfet, comme la place d'un ministre, elle n'est pas d'être en première ligne. Je pense qu'il faut garder une certaine distance. Il faut avoir une capacité d'appréciation de la situation et des faits et qui n'est pas forcément dans les meilleures conditions lorsque on est présent sur le terrain. Ceci étant, ma réponse est adaptée aux différentes situations. Il m'est arrivé, lorsqu'il y avait un incendie, je pense qu'il y a eu un incendie un jour dans des entrepôts à la Courneuve, d'aller sur le terrain parce qu'il me paraissait important de mesurer l'impact qu'il y avait sur l'environnement de cet incendie.
Ou quand un avion s'écrase, ça vous est arrivé.
Ou quand un avion s'écrase, ça m'est malheureusement arrivé avec l'ensemble de l'état-major du groupe Saint-Louis, où je me suis rendu immédiatement avec le procureur de la République sur l'aéroport du Bourget.
Mais en juin 95, à Noisy-le-Grand, le jeune Belkacem Belhabib disparaît brutalement dans un accident alors qu'il pilotait une moto volée. Étiez-vous au premier plan? D'autant que votre présence aurait pu être nécessaire, des bâtiments publics avaient été mis à sac et incendiés.
Deux compagnies de CRS, une centaine de policiers départementaux, au total 300 hommes armés vont patrouiller ce soir et cette nuit à la recherche d'éventuels casseurs. Mais est-ce que cette démonstration de force suffira à décourager des petits groupes de jeunes très mobiles, organisés en véritable commando? Pas sûr. Et c'est pour cela que le maire de Noisy, Antoine Pontonne, reste vigilant.
Très vigilant. Nous aurons ce soir des moyens de sécurité publique importants face à des méthodes de guérilla urbaine. Nous emploierons les moyens appropriés.
On ne saurait tolérer de véritables actes criminels. Ça n'est pas un incendie dans des collèges ou des bâtiments publics ou privés qu'on fait avancer sa cause et sa compréhension.
Les jeunes ne retiennent que la police qui aurait, d'après eux, transformé une véritable bavure en simple accident de la circulation.
Je crois qu'on ne peut pas parler à l'heure actuelle de bavure policière. Ce jeune était sur une moto qui était volée, qui, à la vue d'une patrouille de police, a tenté de prendre la fuite. Mais lorsque l'accident est intervenu, la poursuite avait cessé. Il s'agit d'une affaire de droit commun. Je tiendrai quand même à rappeler, puisque ça n'a pas été dit encore, que ce jeune, qui malheureusement est mort, est quand même multirécidiviste. Il a un pédigré judiciaire qui ressemble étrangement à celui du téléphone en épaisseur.
C'était le Premier ministre de l'époque qui intervenait au milieu de ce reportage de TF1. Vous aurez noté notre contribution à la reconstruction de l'image d'Alain Juppé en homme d'ordre.
Tout à fait.
À la réflexion, mais sincèrement là, et en toute liberté, comment considérez-vous ce qui s'est passé, qui semble annoncer des événements qui se produisent maintenant de manière récurrente, et comment considérez-vous votre rôle?
D'abord, je ne peux que confirmer par rapport au fait ce qui a été dit par le commissaire de police qui est intervenu dans ce reportage. Je pense que c'était un fait de droit commun et que la poursuite avait cessé le moment où ce jeune s'est malheureusement tué. Mais je crois que le rôle d'un préfet dans cette situation, il est d'abord de prendre toutes les mesures de protection de la population lorsqu'il y a besoin de prendre des mesures de protection de la population. Il est de veiller à ce qu'il y ait les moyens de police adéquats pour éviter que les faits ne se reproduisent et ne se développent. C'est ce que nous avons fait.
Le maire a perdu les élections. Vous pouvez, si les choses se passent mal, être sanctionné personnellement. Je ne veux pas faire de référence historique trop ancienne, mais enfin, les préfets, ça date de Napoléon. En 1809, le préfet du Var recevait une missive de Napoléon. Monsieur le préfet, il y a des incendies volontaires dans votre département. Fusillez les responsables. Et s'il y a de nouveau des incendies, c'est vous qui serez remplacé.
Le préfet, il est révocable tous les mercredis. Ce qui fait d'ailleurs que, par rapport à l'attitude que doit avoir un préfet, soit il se situe dans la perspective, il faut que je sois très prudent pour éviter d'être révoqué mercredi prochain, soit je suis là pour l'éternité. Moi, jusqu'à l'âge de la retraite. Moi, je suis parti du principe que j'étais là pour l'éternité. Donc, je me suis pas préoccupé de mercredi prochain. Alors, ceci étant, il faut avoir un peu de chance. Hein. Il faut avoir un peu la baraka dans le métier préfectoral. Le malheureux préfet de la Charente-Maritime, qui était un homme tout à fait remarquable, qui était là au moment de l'évasion de l'adjudant Robin de l'île d'Aix, il a sauté le lendemain. Mais c'était pas le rôle du préfet d'aller vérifier qui débarquait du bateau venant de l'île d'Aix. Il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, je n'ai pas été confronté à des situations difficiles de cette nature.
La deuxième étape va venir, préfet de la région Île-de-France. Votre prédécesseur à la région Île-de-France avait démissionné pour écrire un livre sur la Bible.
C'est exact. Joël Toraval, qui est devenu peu de temps après président du Secours catholique, avait écrit un livre dans lequel il mettait en vis-à-vis sur les pages de gauche l'Ancien Testament et sur les pages de droite le Nouveau Testament.
Et vous avez pleuré en quittant votre immense bureau, la toile de Pignon, le décor de Bobigny.
Nous avons pleuré avec mon épouse et on dit souvent, on arrive en traînant les pieds en Seine-Saint-Denis, on en part en pleurant. C'est vrai parce que j'ai beaucoup aimé travailler en Seine-Saint-Denis.
regarde sa ville tranquille, il attend. Il sait qu'il est fragile, difficile, et pourtant il ouvre ses grands yeux et regarde sa banlieue, cet horizon de Tours qui l'entoure, l'asphyxie. Son univers est lourd, passe les jours et l'ennui. Ce n'est qu'un enfant qui rêve de grand vent. Donnez-lui de l'espace, qu'il efface ses tourments. Et banlieue, empêche-les de vieillir, leur jeunesse se tire. Banlieue, et banlieue, ta grisaille nous inspire que l'envie de partir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Notre marque-page, c'était, et quel marque-page, Karim Cassel. On passe au deuxième chapitre. Jean-Pierre Duport, préfet, témoigne aujourd'hui. En 98, vous devenez préfet de Paris, Île-de-France. Vous vous souvenez de Paul Delouvrier, puisque vous l'avez bien connu, il était délégué à l'aménagement du territoire. Il survole avec le général de Gaulle les banlieues de Paris. Et le général de Gaulle, revenant au sol, lui dit « Delouvrier, mettez-moi un peu d'ordre dans ce bordel ». C'est un bordel quand même, l'Île-de-France, en 2000, mais encore aujourd'hui.
En 2000, je ne sais pas, au moment où le général de Gaulle a confié cette mission à Paul Delouvrier, c'est tout à fait clair, parce que le développement de l'urbanisation se faisait sans contrôle, sans contrainte, et la première tâche de Paul Delouvrier, ça a été d'élaborer un schéma directeur, de mettre en place des villes nouvelles, d'organiser des pôles de développement qui soient à la fois des lieux où on habite et où on travaille. Lorsque je suis arrivé en 1998, le schéma directeur existait, il avait été refait en 94. Donc je dirais que l'organisation de la région Île-de-France, elle était en place. Ce qui
faites
peut
le
pas
test
dire...
quand même, Jean-Pierre Duport. Marchons au sol maintenant, on n'est plus en hélicoptère. Un provincial est perdu à Paris, mais il n'y a pas plus perdu qu'un Parisien en banlieue.
C'est exact. C'est exact. D'ailleurs, l'une des choses qui m'a beaucoup frappé, je reviens un instant en Seine-Saint-Denis lors de la crise du CIE Balladur, ou du CIP Balladur, c'est de constater que les jeunes ne sortaient très peu, très très peu de leur quartier. Donc, l'une des tâches est, à mon avis, de faire franchir le boulevard périphérique.
Oui, c'est entendu, mais il faut aussi, je veux pas expliquer qu'on doit revenir au temps du despotisme éclairé de Paul Delouvrier, essayer d'organiser les choses entre les communes. Il y a combien de communes dans la région Île-de-France ? Et chacune de ces communes a par exemple son plan local d'urbanisme.
Oui, il y a près de 2000 communes, je crois que c'est 1500 et quelques communes à l'intérieur de l'Île-de-France. Et il est certain que l'un des travers de notre dispositif, c'est l'existence de PLU communaux. Et l'un des objectifs des gouvernements successifs, c'est de mettre en place des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, et je pense que c'est une tâche à laquelle il faut continuer à s'attaquer.
Les intercommunalités commençaient à exister quand vous arrivez.
Oui.
Mais je voudrais que vous soyez quand même plus clair quant à vos rapports au maire. Un maire qui bâtit trop, ou un maire qui ne bâtit pas dans la direction de l'électorat qui lui est favorable, c'est un maire battu, maire bâtisseur, maire battu.
Oui, c'est une image historique de dire que le maire bâtisseur est un maire battu. Je pense que ce n'est pas vrai de tous les maires. Ce qui est vrai, c'est que on n'aide pas beaucoup aujourd'hui les maires bâtisseurs. Et l'une des mesures récentes qu'a prise le gouvernement est de donner une dotation pour les maires qui construisent des logements, d'avoir une dotation particulière. Je pense que c'est une bonne idée.
Alors vous avez accompagné les travaux du Stade de France auquel avait consenti, qu'avait appelé de ses voeux le maire de Saint-Denis de l'époque, Patrick Braouezec. Hommage au maire peut-être, au préfet sans doute, mais aux ouvriers constructeurs.
Moi je pense que tout est beau ici, hein. Le toit, tout ça, donc non mais rien raté. Non quand même c'est magnifique. Ça nous permettra de dire à nos enfants, mais tiens on a construit le Stade de France, tout ça, ben, c'est, moi je pense que c'est génial quoi. Et puis c'est dur, hein, parce que nous on a travaillé pendant l'hiver, tout ça, bon l'été là ça va quoi, mais l'hiver, vous savez, il fait froid, on est obligé de travailler. Et c'est un bon chantier quoi, c'est un bon chantier, mais c'est dur quand même. Il y a toutes les nationalités quoi, il y a les Portugais, il y a les Arabes, il y a les Noirs, il y a tout le monde, c'est pas facile aussi. Hein. Au début c'était dur, hein, parce qu'avec les Portugais, on comprend pas portugais quoi, nous on parle que français, mais c'était dur, mais à la fin bon, on est devenus des copains, tout ça, à midi, on rigole, on s'amuse, tout ça.
Mais après le portugais?
Oui, un peu, quoi. Bonjour, bien bonsoir, tout ça, quoi. Donc,
l'arabe aussi?
L'arabe, oui, bien sûr, tout. Ouais, tout, donc c'est bien, quoi. Et puis là, on a fait une fête aussi, parce que c'est presque la fin, quoi. Donc ils nous ont offert à boire, tout ça, à manger, tout. J'ai ma place, quoi, déjà. C'est numéroté, tout ça, donc, ouais.
Ça sera quel numéro?
Le numéro, c'est 17B6.
28 janvier 1998, 19h15, le spectacle peut commencer. Cet instant tant attendu est enfin là. Le Stade de France, conçu dans la douleur, s'apprête à naître dans le bonheur.
Je souhaite une vie belle et glorieuse au Stade de France.
Président Chirac à l'époque, vous qui vous piquez d'architecture, qui êtes le président de la Fondation Le Corbusier, vous pouvez porter un jugement, une appréciation sur le stade d'un point de vue architectural. Ça a la gueule d'un stade.
Oui, et j'aime bien que les bâtiments signifient leur fonction. Je trouve qu'il faut qu'un stade ait une gueule de stade, et je trouve que le Stade de France a une gueule de stade, et j'aime bien.
Parce que les prisons, par exemple, en Île-de-France, ça n'a pas la gueule d'une prison. Il n'y a plus de prison au milieu des villes.
Si ça a une gueule de prison, bah, la prison de la santé est au milieu de la ville, et j'habite juste à côté, et on est en train de la reconstruire, donc ça aura forcément une gueule de prison.
Mais moi, je voulais vous parler des équipements structurants, et pas seulement des équipements réparateurs. Il peut y avoir un stade, parce qu'autour du stade, il y a des gares, il y a des équipements. Vous avez veillé, vous et les autres aménageurs de l'Île-de-France, à développer des équipements structurants en matière de recherche et d'enseignement. Il paraît que si on totalise toutes les potentialités de l'Île-de-France en matière de recherche, ça en fait le premier pôle du monde.
Je n'avais pas ce chiffre, mais ça ne m'étonne pas. Si on prend, par exemple, la plaine Saint-Denis. La plaine Saint-Denis, au-delà des équipements universitaires de Paris 8, de l'IUT de Saint-Denis, il y a le pôle de recherche de Saint-Gobain, il y a le pôle de recherche de Rhône-Poulenc, il y a le pôle de recherche de gaz de France, enfin d'Engie aujourd'hui. Donc une bonne partie de la recherche, elle est sur la plaine Saint-Denis. Donc ça ne m'étonne pas, l'Île-de-France est certainement le pôle de recherche, l'un des pôles de recherche les plus importants au monde.
Je peux vous raconter une anecdote. Assis au soleil en lisant un livre, il y a peu, devant la nouvelle Maison des sciences de l'homme, campus Condorcet, Aubervilliers, non loin de la zone que vous décrivez, je vois un jeune noir qui approche. Alors, il remarque que je sais lire. Et lui, il a beaucoup de mal à lire le long texto qui vient de lui être envoyé sur son portable. Alors je déchiffre pour lui, et c'était un rendez-vous qui lui était donné par une jeune fille d'une mission évangélique qui l'attendait pour une réunion de prière. Ça en dit long sur la proximité immédiate d'habitants pauvres et d'étudiants, de chercheurs, d'universitaires qui témoignent d'un pôle de croissance. Tout ça voisine et s'est dissocié.
Ben, je pense que l'un des enjeux pour tous les aménageurs publics, et je me souviens que lorsqu'on a mis au point avec Jean-Paul Huchon, qui était à l'époque président du conseil régional, le contrat de plan État-Région 2000-2006, nous avions la même analyse. Il n'est pas pensable qu'il y ait un développement de l'Île-de-France, entre guillemets, désintégré entre des poches de pauvreté extrêmes et des poches de richesse très grandes. Et l'un de nos enjeux, tant du côté du conseil régional que du côté de l'État, c'est d'assurer la bonne intégration de façon à ce que ces pôles de richesse profitent aux populations qui habitent ces zones de pauvreté. C'est pas gagné, c'est extrêmement difficile, et je dirais que les enjeux peuvent être difficiles à relever, dans la mesure où, lorsque les pôles de richesse se rapprochent des pôles de pauvreté, ça peut créer quelquefois plus de tensions que ça ne résout de problème.
Regardez, toujours au même endroit que vous évoquez, du côté d'Aubervilliers et de Saint-Denis, il y avait un quartier traditionnel, la Petite Espagne, là où a été élevé le secrétaire général de la CGT d'aujourd'hui, c'est un quartier qui
rue
connaît...
Cristino Garcia.
Rue Cristino Garcia, une rotation inouïe, reportage de France Inter et de Géopolis.
Ce quartier surnommé la Petite Espagne est aujourd'hui peuplé de Pakistanais, d'Africains ou de Maghrébins. Certains ont des papiers, d'autres non. Comme des milliers de leurs compatriotes, ils ont cru trouver en France du travail et de meilleures conditions de vie. Les nouvelles vagues d'étrangers arrivées ces 10 dernières années ont pris la place des Espagnols ou des Portugais. Le système est simple. Une vague d'immigrants pousse l'autre. Et à chaque fois, on reparle d'intégration. Lolette Artimbert, puéricultrice dans le secteur depuis 30 ans, est chargée du suivi sanitaire des enfants du quartier.
Les Cap-Verdiens sont remplacés par des Haïtiens. Et là, il y a une famille pakistanaise qui vient remplacer.
Saint-Denis compte aujourd'hui 30% de population immigrée. Un chiffre qui a très peu varié en 30 ans.
Nous, quand on était gamin, Achour, il a appris l'espagnol, moi j'ai appris le tamil.
Et avant l'apprentissage du créole haïtien, il y a eu l'apprentissage du portugais des Cap-Verdiens, parce que quand on regarde ce quartier, c'est un immense atelier de réparation à ciel ouvert, avec les gens qui apportent des frigos, des moteurs de voitures, et tout ça à deux pas de tous ces équipements de luxe que vous avez cités.
Oui, c'est ça qui est une des richesses de la Seine-Saint-Denis.
Mais vous avez cité... Vous me faites rire, parce qu'il y a 20 ans, vous envoyez un rapport au ministre en disant « attention aux fractures irréversibles ».
C'est vrai, je me souviens très très bien de ce rapport qui m'a valu la une d'un grand journal du matin sur le thème « Un préfet se révolte ». Donc je crois que c'est un vrai challenge. Mais il y a 156 nationalités en Seine-Saint-Denis, donc je dirais qu'il faut vivre avec. Ceci étant, il y a des richesses extraordinaires. Moi, j'ai gardé le souvenir de la Seine-Saint-Denis, des associations de femmes qui prenaient en charge la libération des femmes de la tutelle de leur mari. Et il y a un travail formidable. C'est pour ça qu'on part en pleurant de Seine-Saint-Denis. C'est qu'il y a une mobilisation des acteurs tout à fait exceptionnelle. Et c'est ça qui me rend optimiste. J'étais, il n'y a pas très longtemps, reçu par les maires de Clichy et de Montfermeil pour aller voir ce qui se passait sur le plateau de Clichy-Montfermeil, zone dont l'image est, je ne reviens pas aux événements qui se sont passés il y a une dizaine d'années, tout à fait abandonnée à l'époque. Je suis aujourd'hui très touché par le fait qu'il y a un développement exceptionnel sur Clichy-Montfermeil.
Ma dernière question va permettre de réveiller votre capacité de révolte. Alors, finit par se construire une structure institutionnelle qui est en place depuis le 1er janvier. Grand Paris, la métropole du Grand Paris, avec un conseil de 209 élus. On s'aperçoit que Saclay ne fait pas partie géographiquement de la métropole. On s'aperçoit que Roissy ne fait pas partie géographiquement de la métropole parce que les élus ont veillé à leurs intérêts. Monsieur Bartolone, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, quand ça l'arrangeait, donnait un périmètre. Quand il était candidat à la région, donnait un autre périmètre. Et maintenant qu'il a été battu, je ne sais pas quel périmètre il imagine. Intérêts électoraux, nécessité d'un despotisme un peu éclairé.
Je rappelle que la métropole, elle existait dans le passé, puisque c'était le département de la Seine qui a été éclaté dans les trois départements de la Petite Couronne et dans le département de Paris. Le besoin qu'il y ait un renforcement des pouvoirs métropolitains, il me paraît tout à fait évident. À titre personnel, et je sais que d'autres élus, tout particulièrement Patrick Bauzek était plutôt sur cette ligne, mon idée était plutôt de renforcer le rôle du conseil régional et le rôle des intercommunalités. Il a été décidé d'agir autrement. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que même si la solution de la métropole n'était pas la solution qui avait ma préférence, il faut que la métropole réussisse.
Un préfet, ça doit faire avec. Proverbe arabe, je vous laisse le finir. La fourmi noire, dans la nuit noire.
Sur la pierre noire, Dieu seul la voit. C'est en exergue d'un très beau livre, Portrait d'un officier de Pierre-Henri Simon.
Merci à vous, c'était une tentative de portrait d'un préfet avec vous, Jean-Pierre Duport. L'émission était préparée par Guillaume Scalet, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, avec à la technique Gaël Braouezek et à la réalisation Jacques Sigal.